trouver sur le net.
Ils ont besoin d'entendre qu'il y a du sang qui coule de ces murs. Le sang des 900 autres qui sont morts cette année dans la rue. Ce sont des assassins parce qu'il suffisait d'ouvrir ces portes-là, toutes ces portes, pour que toutes les personnes, les femmes, les hommes et les enfants, puisqu'un enfant de 4 ans est mort à Strasbourg dans la rue, il suffisait d'ouvrir ces portes pour que les gens ne meurent pas. Donc je crois qu'il faut dire ce mot-là, parce que tout le monde a fait la fête, là, dans les beaux quartiers. Tout le monde a rendu hommage aux bergers, aux petits enfants dans les tables. Voilà, ben ils n'en sont pas dignes, parce qu'ils assassinent. Parce qu'aujourd'hui, la grande propriété assassine. On n'a jamais été dans une situation pareille depuis des décennies. Ce qui se passe sur les campements à Paris, sur les trottoirs, on ne l'a pas vu depuis très longtemps. Aujourd'hui, on traque les gens en plein mois de décembre dans le bois de Vincennes. En plein mois de décembre, on lacère leurs tentes. On laisse les gens sans tente, en sachant qu'ils vont peut-être mourir dans les 48 heures. Aujourd'hui, le gouvernement a fait passer une circulaire depuis le mois de juin. Quiconque n'a pas sa carte vitale ne peut pas avoir de médicaments dans une pharmacie, même avec une attestation prouvant qu'il ou elle a la CMU. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour des personnes SDF qui ne sont pas de Paris, qui n'ont pas les moyens d'avoir une domiciliation, qui n'ont même pas les moyens de faire leurs papiers? Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui a 42 fièvres, qui a une infection, qui est dans la rue et qui a besoin d'antibiotiques? Ça veut dire qu'il va mourir. Donc aujourd'hui, on vit dans un pays où on nous demande d'appliquer les lois de la République. La loi de la République, la Constitution, le droit au logement, c'est un droit qu'ils ne respectent pas. La loi de réquisition, c'est une loi de la République qu'ils ne respectent pas. Il va y avoir besoin de colère et d'unité cette année pour que l'année prochaine, on n'atteigne pas le millier de frères et de sœurs qui vont mourir dehors comme des chiens. Merci.
Micro ouvert.
Allez, encore un micro ouvert là. Ça en fait des micros ouverts et c'est à l'Institut Cardaine. En fait, je suis déjà passée, mais je savais pas que c'était ici. Et donc ça, c'est... Moi, je présente comme ça, ça te dérange pas qu'on... C'est un institut social, tu peux un peu présenter ?
Tout à fait, oui. Donc, c'est Cardaine qu'on appelle, on a oublié le mot institut, mais c'est pas grave. Et on fait partie de la Haute École Louvain en Hainaut, mais on est fiers de notre identité Cardaine, même si on fait partie d'une beaucoup plus grosse entité. Donc, Cardaine est une école sociale qui forme de futurs assistants sociaux, avec, en tout cas nous en tant que profs, et les étudiants sont assez d'accord, une volonté de s'intéresser aux faits de société de manière autre que simplement dans l'aide individuelle avec des personnes qui arriveraient avec une problématique. Mais on essaie de permettre aux étudiants d'apprendre à regarder ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient dans leur stage, d'une manière beaucoup plus macro, dans des dimensions beaucoup plus politiques, parfois militantes, engagées, ça dépend des étudiants, évidemment, mais quand même dans la tête, on essaie de leur expliquer que c'est important de réfléchir les situations qu'ils rencontrent de manière autre qu'individuelle, dans ces dimensions davantage politiques et militantes.
Voilà. Oui, il y a cette phrase, ça me vient comme ça, je ne sais pas pourquoi, mettre un sparadrap sur une plaie béante, alors qu'en fait, ce sont des questions politiques derrière tout ça. Le travail social, c'est ça, c'est mettre un peu du sparadrap sur des plaies béantes.
Mais il y a un travail social qui est celui-là, et il a son efficacité malgré tout. Hein. C'est vrai que recevoir une personne dans un bureau et l'écouter, et lui proposer une solution, remplir un document, etc., c'est important. Mais c'est pas suffisant. On se rend compte que c'est pas suffisant. Les travailleurs sociaux sont suffisamment nombreux que pour pouvoir prendre la parole de manière plus collective et amener à un moment une réflexion qui soit forte sur ce qu'est le travail social et sur l'expertise. Je mets toujours des guillemets à expertise parce qu'on n'est pas expert absolument, mais quand même le fait d'être autant de travailleurs sociaux dans tellement de services différents, des associations, des services publics, des CPAS, des mutuelles, des maisons de jeunes, de l'aide à la jeunesse, du handicap, etc. On se rend compte quand même que le collectif des travailleurs sociaux a vraiment une expertise intéressante à faire entendre. C'est pas toujours facile, les politiques savent.
De se faire entendre ?
De se faire entendre, oui, effectivement. Les politiques savent, n'ont besoin de personne le plus souvent, trop souvent, les journalistes, dont on va parler probablement, savent aussi, ont aussi une manière de dire les choses et interpellent relativement peu les travailleurs sociaux, alors que je trouve que dans l'expertise, nous, je m'intègre dedans. On a des choses à dire parce qu'on est sur le terrain, parce qu'on voit des choses. Et donc, je mets tout de suite une nuance. C'est vrai qu'on a une certaine expertise, mais l'expertise, on la tient des gens avec lesquels on travaille, qui, eux, ont une autre expertise véritable aussi. Et donc, l'expertise des travailleurs sociaux, c'est de dire, de pouvoir exprimer ce qu'ils observent, mais aussi de pouvoir aider les gens à dire ce qu'ils ont à dire. Et donc, aider les gens à dire ce qu'ils ont à dire, c'est parfois trouver des solutions pour leur donner la parole là où ils ne l'ont pas, par exemple. Et ça, ça fait partie des enjeux du métier d'assistant social, tel qu'on l'envisage ici à l'école, mais dans d'autres écoles sociales également, évidemment.
C'est quel cours que tu donnes
Donc, moi, je suis coordinateur des TFE en troisième année. Donc, les TFE, c'est les travaux de fin d'études en troisième année. Je donne le cours de méthodologie, j'encadre les stages. Et puis, je donne un cours de déontologie et travail social. Je donne un cours de pratique artistique et travail social. Et je donne un cours travail social avec les groupes. Voilà, globalement, c'est ce que je donne comme cours. Et ça me prend mon temps plein, oui.
Ça fait combien de temps que tu fais ça?
Disons que...
La police un peu, hein, non? Ça va?
Non, ça va. Pour l'instant, ça reste raisonnable. C'est sur mon CV, donc je partage ça encore. J'ai commencé il y a 30 ans, plus ou moins. Avec une pause ou l'autre. À un certain moment, j'étais assistant social d'abord. Puis j'ai eu une pause ou l'autre. Mais globalement, ça fait une trentaine d'années que je suis prof. Ouais.
Ok, de la bouteille derrière, quoi. Voilà. Mais nous, en fait, on se rencontre. Et déjà, je te remercie d'avoir accepté la rencontre, hein, parce que c'est pas quelque chose de, je trouve, de facile à faire, parce qu'on est un peu on va parler de ce documentaire qui a fait le buzz, hein, comme on dit. Ça s'appelle Sans boulot, tous fraudeurs, de Christophe Debourcu sur RTL. Bon, déjà, moi, je regarde jamais RTL, j'aime pas du tout le ton, j'aime pas comment on nous parle, mais je vois passer sur les réseaux sociaux grosse polémique par rapport à ce documentaire, quoi. Voilà, comme quoi c'est inadmissible, c'est grotesque, on se fout de la gueule du monde, manque de respect, c'est ça.
Il y avait ça, oui. Et en même temps, il y a beaucoup de soutien aussi, hein. Donc des gens qui disaient oui, il y avait quand même beaucoup de gens qui soutenaient Debourcu, qui trouvaient qu'il avait enfin dénoncé ce qu'il fallait dénoncer, ce que beaucoup ne faisaient pas, y compris des politiques d'ailleurs, hein. On a entendu que des députés de la commission des affaires sociales, je pense, voulaient inviter Debourcu pour qu'il vienne expliquer aux députés comment ça se passait dans la réalité. Je ne sais pas si un journaliste comme Debourcu est la personne la plus appropriée pour informer les politiques là-dessus. Enfin voilà, ils voulaient l'inviter. Mais donc oui, ça, il y a eu toutes sortes de commentaires, des gens qui applaudissaient et d'autres qui étaient scandalisés. Et moi, je n'avais pas vu l'émission, je n'étais pas particulièrement intéressé parce que je connais ce style d'émission.
T'as déjà vu pour critiquer quand même.
J'ai jamais vu l'émission en tant que telle. Mais je connais un petit peu le travail de Debourcu, je connais un petit peu le travail de RTL. Je sais que... Enfin, tu dis c'est un documentaire. Moi, j'appelle pas ça un documentaire. Un documentaire, c'est pour documenter les choses. J'ai pas l'impression qu'il documente les choses. Il amène.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai regardé sur la plateforme. Alors d'abord, j'ai dû faire de la recherche, rentrer mes codes privés un peu. Enfin, tu vois, nom, prénom, là. Ils m'ont envoyé, je ne sais pas combien de pubs. Mais tu vois, je veux dire, vraiment, on est. Et puis, c'était dans la catégorie documentaire. Ah, oui. Voilà. Tu vois, c'est.
Oui. Mais probablement que.
Je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas du documentaire.
Bah, probablement que RTL appelle ça un documentaire, comme Debourcu dit qu'il est journaliste. Il a sûrement été journaliste, et peut-être qu'il a encore toute une série de compétences que je ne vais pas nier, certainement. Mais en tout cas, je trouve que ce travail-là, sur cette émission-là, n'est pas un travail de journaliste, c'est autre chose.
Parce que tu l'as regardé pour finir ce Sans boulot, tous fraudeurs.
Disons que j'ai rapidement, j'ai regardé, j'étais vite sur certaines choses, je ne me suis pas... En tout cas, je ne me suis pas arrêté à regarder attentivement tout le truc.
Pourquoi?
Parce que...
Moi, je dis, ça fait tellement polémique que c'est intéressant, du coup, de regarder vraiment tout le sens que ça a, tout ça.
Mais je te dis, je l'ai regardé suffisamment, mais en zappant certains moments. Quand lui parlait, par exemple, ça m'intéressait peu. Mais j'ai écouté les témoignages du prof du NIF, des personnes qu'on interviewait, de la présidente du CPS. Parce que je trouvais que ça, c'était intéressant de voir un petit peu ce qu'il racontait. Et c'est vrai qu'on se rend compte très rapidement que c'est très raccourci et que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait, a priori, même avant de le voir, ça m'avait déjà choqué en lisant les commentaires des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ces personnes ont pu raconter et qu'est-ce qu'on a gardé de ce qu'elles ont pu raconter? Et on les présente comme étant limitées à ce qu'elles ont dit, alors que probablement elles ont peut-être dit d'autres choses, et que si elles n'ont pas dit d'autres choses, elles sont d'autres choses que simplement ce qu'on a raconté. Et là, moi, a priori, ça m'a choqué. Avant même de voir vraiment le truc, c'est ça qui m'a choqué, quoi.
Bon, moi aussi, j'ai regardé le film. Hein. Comme ça, on parle de la même chose. J'ai pris le temps de regarder. D'abord, ce qui est incroyable, c'est que ça dure 37 minutes. Le micro ouvert va durer plus longtemps. Ça donne des fois la parole sur Jacqueline, là, 2 minutes. Mais comment avoir un avis sur quelqu'un ? Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi, déjà, ça. Mais après, on va discuter de comment, pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu, ça raconte quoi ? Ça raconte quoi, ce documentaire ?
C'est pas le plus simple à raconter, hein. Donc, en fait, la question qu'il pose, c'est est-ce que il n'y aurait pas en Belgique, et il focalise sur une rue de Verviers, hein, la rue de Dizon, là, et il focalise sur une rue en disant ben, probablement que c'est un des symboles de la fraude en Belgique. Je sais pas très bien comment il a cette idée-là, mais en tout cas, c'est le discours qu'il essaie de faire passer. Il pointe une rue à Verviers et il interviewe une série de personnes, là, qui, en tout cas dans ce qu'on voit hein, du reportage, explique que, bah oui, ils sont au chômage depuis longtemps, ou qu'ils profitent de la mutuelle, ou qu'ils ont en tout cas des avantages sociaux dus à des problématiques dont on parle très peu, par ailleurs. Hein, donc,
je tiens à dire, on voit que ce sont des petites gens. Hein. On voit que c'est, tu vois, c'est pas, ils s'adressent à des, qui sont très naïfs, enfin, je sais pas si c'est le terme naïf, mais qui font confiance à ce type, qui raconte sincèrement les choses, quoi. C'est même perturbant, je trouve, non?
Tout à fait. Ben, c'est un peu la force de ce style d'émission, c'est que, bon, De Borsu, c'est une personnalité, donc probablement que les gens qui regardent RTL devaient être contents de le rencontrer, ça devait leur faire plaisir de le rencontrer, de parler, parce que c'est ce que Jacqueline raconte quand je l'ai rencontrée, c'est ce qu'elle me racontait.
C'est Jacqueline, une dame dans le documentaire qui a interviewé, hein, et qui dure 2 minutes.
Voilà. Mais donc, quand elle m'a parlé, on en parlera tout au long de nos 50 minutes maintenant, mais elle me dit, il est avenant, mielleux, sympathique, etc. Donc, on a envie de lui faire confiance. Et Jacqueline me disait, c'est pas pour ça qu'il venait m'interviewer. Lui, il venait m'interviewer. Elle avait fait un post sur les réseaux sociaux de RTL où elle expliquait, en tout cas, je ne sais pas exactement ce qu'elle expliquait, j'ai pas vu le post, mais elle expliquait un positionnement qu'elle avait par rapport aux chômeurs et à la suppression des allocations de chômage.
Elle disait quoi ?
Exactement, je ne sais plus, mais elle était plutôt, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle voulait défendre les chômeurs. Mais ça va intéresser et De Borsu et sa clique, comme j'ai envie de dire, de RTL, qui ont dit, bah, tiens, ce serait bien d'aller interviewer cette dame, pour qu'elle puisse en parler. Et donc, Jacqueline avait d'abord refusé, et puis ils ont insisté, donc elle a fini par accepter en disant, bah, voilà, ça peut être intéressant que je raconte ce que j'ai à raconter. Mais ils sont arrivés, et ce n'est pas de ça qu'ils ont parlé. Ils ont parlé de sa situation à elle, de son accident, donc il y a 8 ans, où elle est tombée, elle s'est cassé le péroné, et puis de tout. Pas seulement l'accident du péroné, mais tout ce qu'elle avait vu auparavant a pris à un moment beaucoup d'ampleur, ce qui fait que ça faisait 8 ans qu'elle n'était plus au travail, et qu'elle se disait, ben, ça me convient de ne pas travailler, évidemment, parce que enfin, dans l'état où elle était, elle n'aurait pas su de toute façon, hein, elle était quand même vachement amochée physiquement, ça aurait été difficile pour elle de continuer. Mais donc, oui, elle a dit un moment dans la conversation, mais dans une conversation qui devait être
hors micro là ou
en micro, au micro.
Dans le documentaire.
Dans le documentaire, oui, elle dit que bah ça lui convient de ne plus travailler.
Ah oui, ça je me souviens. Voilà. Oui, elle le dit elle dit en gros, bah voilà, moi je pourrais plus travailler, ça me convient et oui, voilà. Et
tout à fait, c'est ça.
Et quoi ? Et alors ? Ah oui. Je sais quoi le problème.
Le problème, en tout cas pour De Borsu et pour tous ceux qui ont envie de réfléchir comme lui, notamment au niveau politique, c'est de dire regardez, ça fait une dame qui, depuis 8 ans, ne travaille plus et profite d'un système. Désolé, mais elle ne profitait pas d'un système. Elle était dans une situation d'incapacité de travailler. Je ne vois pas ce qu'elle aurait encore pu faire. Elle a travaillé toute sa vie debout.
Mais ça, on ne le dit pas dans le documentaire. Et c'est ça, toi, avec Jacqueline, après, vous prenez le temps de décortiquer tout ça. C'est ça ? C'est ça, tu peux un peu expliquer ?
Oui, bah, c'est la base, effectivement, de la réflexion que j'ai pu avoir. Et donc, peut-être expliquer un petit peu ma démarche d'abord. Je vois passer les posts un peu scandalisés sur l'émission. Mes amis Facebook sont plus scandalisés par l'émission que...
Oui, scandalisés dans le bon sens, oui, genre...
C'est de la manipulation, etc. Et je vois notamment une interview ou un post, je ne sais plus très bien maintenant, de la présidente du CPS de Verviers, qui intervient dans le,
dans le documentaire.
Dans le documentaire, oui. Et qui dit que...
Elle dit quelque chose de bien, je trouve, non?
Oui, elle dit... En tout cas, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce qui apparaît dans l'émission, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je lutte contre la fraude sociale, mais les gens, parfois, ont des problèmes qui font que bah ils doivent bénéficier et marger au CPS.
Elle dit je ne cautionne pas mais je comprends.
Oui, voilà quelque
chose. J'aurais même dit pu encore se mouiller un peu plus, je trouve.
Je trouve parce que moi personnellement comme travailleur social, prof dans une école sociale, je peux dire que dans certaines situations les assistants sociaux de terrain me le disent, bah, on cautionne, c'est pas facile à dire parce que qu'est-ce qui se passe? L'article 1 de la loi organique des CPS dit les personnes ont droit à la dignité humaine. Avec le RIS, pour certains, c'est pas suffisant pour avoir, on n'arrive pas à la dignité humaine. Alors que certains travailleurs sociaux ferment les yeux sur du travail au noir, sur de la cohabitation, etc. Ça n'a rien de scandaleux pour moi parce que
moi non plus.
Voilà, mais la dignité, elle arrive à ça. Bon, en disant ça, je sais que je vais avoir des problèmes peut-être avec de Borsu et certaines personnes qui vont débarquer, mais je le dis régulièrement. C'est pas un secret. En tout cas, je dis ça publiquement régulièrement.
Mais on continue la petite parenthèse, mais je veux dire, les vrais fraudeurs, c'est vraiment pas des petites gens qui ont 500 ou 200 ou 300 balles. Enfin, je veux dire, moi, j'en revenais pas de regarder les choses par le bas, tu vois? Alors qu'il y a des milliards qui sont... ça, tu vois, j'étais étonnée de ça, quoi. Je me dis, mais c'est ridicule, non?
C'est complètement ridicule. Et il y a des chiffres, hein. Donc moi je ne suis pas spécialiste, donc je ne retiens pas les chiffres comme ça, mais les gens qui sont spécialistes expliquent les chiffres de la fraude sociale et de la fraude fiscale, et ben, c'est effectivement incommensurable. Et c'est, si on veut sauver l'État belge d'une faillite potentielle, à la fraude sociale, on peut s'y attaquer si on en a envie, mais ça ne va rien changer au problème budgétaire de la Belgique. Par contre, la fraude fiscale, on va trouver des solutions assez... enfin, on va retrouver du pognon, en tout cas, là, c'est clair. On va pouvoir acheter plein de F-35 grâce à ça. C'est pas ce que j'envisage. Mais oui, il y a des moyens, effectivement, au niveau de la fraude fiscale.
Je te laisse continuer avec Jacqueline, parce que tu disais... Tu vois où t'étais okay.
Plus ou moins, je vois où j'en étais. Mais donc, effectivement, De Borsu interroge Jacqueline sur des choses qu'elle dit, effectivement, et elle dit notamment qu'elle est bien, finalement, avec... Et c'est ça qu'on retient, alors que Jacqueline, elle racontait beaucoup d'autres choses.
Oui, mais ça, c'est pas dans le film. C'est ça que c'est important à comprendre, c'est qu'on donne seulement... Moi, on donne seulement la parole 2 minutes à Jacqueline, et en gros, ce qu'on entend, c'est « Ah ben oui, moi, je travaille plus depuis 8 ans, c'est comme ça, ça, oui, ça m'arrange, et limite, il y a aussi une partie... » Où il dit bientôt le soleil, je pars. C'est quoi le genre si je trouve quelque chose au soleil, j'y vais.
C'est logique et légitime, hein, évidemment. C'est logique et légitime. On rêve tous de ça à un moment. Hein. Mais donc oui, elle se rend compte que de toute façon, elle ne travaillera plus. Elle a quand même passé 60 ans. Hein, donc elle arrive au bout. La remettre au travail maintenant dans l'état physique dans lequel elle est, c'est plus possible.
Mais attends, excuse-moi, je te coupe. Hein. C'est que les gens comprennent bien que ça, ce n'est pas dans le documentaire. Alors, toi, tu vas rencontrer Jacqueline pour avoir du contexte, quoi. Voilà.
Ben, je vais peut-être essayer de me concentrer sur la manière dont je travaille pour le contexte. Mais donc, effectivement, Jacqueline raconte un petit peu certaines choses. De Borsu se saisit de ces quelques phrases, complètement décontextualisées, et c'est ça qui apparaît dans l'émission. Et donc, moi, entendant la présidente du CPAS, Martin Wagner, qui est prof du NIF à l'UCL, j'entends qu'ils ne sont pas heureux de la manière dont De Borsu raconte ce qu'ils ont raconté, en disant « on a été manipulés », et je me dis « moi ». Et c'est ce que je mets dans le premier post que j'ai posté sur les réseaux sociaux. Je dis, ben, si eux, qui ont pourtant une stature, une présidente de CPAS, un prof du NIF, si eux disent, ce n'est pas ce qu'on a raconté, que dire de toutes les petites gens, toutes les autres, Jacqueline, mais aussi tous les autres, qui ont parlé et qui, dont on a pris quelques phrases, qui ne disent rien de leur vraie vie. Et donc, je mets ce post-là sur les réseaux sociaux. Et j'ai Bernadette Schack. Bernadette qui travaille, elle est pensionnée depuis longtemps, elle a travaillé comme assistante sociale.
C'est formidable, hein. Moi j'aimerais bien faire un micro ouvert, mais
elle est hyper occupée, mais il faut peut-être insister un petit peu, peut-être qu'en entendant, peut-être que...
Bernadette c'est...
Voilà. Mais donc, elle me dit, commentaire en dessous du poste, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose, est-ce que tu es partant? Et moi je réponds oui. Bêtement, évidemment, j'aurais pas dû dire oui parce que ça m'a pris beaucoup de temps finalement. Non, je suis très content de l'avoir fait. Mais donc, je dis oui. Et puis, mais quoi ? Mais je dis, ben, moi, ce qui me paraît problématique, c'est que ces personnes ne racontent pas leur histoire. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on raconte leur histoire. Elle dit, OK, on va voir là-dessus. Ben, puis, voilà, oui, je dis, mais moi, je n'ai pas de relais. Hein. T'inquiète pas pour ça, je vais trouver. Et effectivement, deux jours après, elle trouve un syndicaliste liégeois qui s'appelle Philippe. Et elle me dit, ben, Philippe connaît une personne qui a participé au débat et elle est, tu peux entrer en contact avec. J'envoie un message à Philippe en demandant, est-ce que tu ne veux pas envoyer un message à cette personne que tu connais pour voir si elle est d'accord de que je la rencontre pour que j'explique un petit peu l'histoire. J'explique déjà, j'envoie déjà un message à cette personne par l'intermédiaire de Philippe, donc j'attends un peu sa réponse. Ça prend un petit temps avant qu'elle ne réponde. Et c'est Jacqueline. Mm-hmm. Je le sais, je le découvre à ce moment-là. Et Jacqueline me dit, bah oui, moi je suis un peu inquiète parce que bah, je me suis fait avoir une fois, j'ai pas envie de me faire avoir une deuxième fois. Et donc je lui explique un petit peu la démarche dans laquelle je suis.
Mais attends, parce que quand tu dis ça, Jacqueline dit qu'elle s'est fait avoir. Pourquoi elle dit ça en fait? Enfin, moi tu vois, j'aime bien des fois, quoi, parce qu'elle voit sur les réseaux toute cette polémique, quoi. Qu'est-ce que, t'as peut-être pas posé la question, du coup tu sais pas dire, mais oui, qu'est-ce
qui... Notamment, il y a le fait qu'elle voit l'émission, et l'émission ne se passe pas, elle se rend compte qu'elle est... stigmatisée sur un élément particulier de sa vie alors qu'elle avait d'autres choses à dire.
Elle a dit autre chose, en fait, oui, oui.
Elle a dit autre chose, et en tout cas, je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit, je n'étais pas là et je ne sais pas non plus ce que De Boursu aurait pu mettre d'autre, mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'elle avait envie de renvoyer comme image. Elle avait l'impression d'avoir dit d'autres choses, et en tout cas, elle ne se reconnaissait pas du tout dans l'émission telle que proposée. Et puis, elle a lu tous les commentaires sur les réseaux sociaux, assez haineux pour certains, assez violents, stigmatisants, et donc elle s'est sentie très mal. Elle s'est sentie salie, elle s'est sentie manipulée, elle s'est sentie... oui, tout ça. Et donc, elle s'est dit, oui, je lui fais avoir, quoi. Et donc, elle le raconte dans la carte blanche. Elle allait au magasin en essayant de s'anonymiser un petit peu pour ne pas être reconnue parce qu'elle a peur d'être interpellée de manière négative.
J'ai une question dans le documentaire, moi, que j'ai regardé il y a quelques jours. C'est son visage est flouté. Il était déjà flouté parce que je crois avoir lu ou qu'il n'avait pas flouté les visages. Du coup, ils étaient reconnaissables. Il a toujours flouté.
Okay. Ils étaient floutés, mais elle disait mes voisins me reconnaissaient. Je suis pas vraiment flouté. Enfin, c'est un floutage où on reconnaît encore les gens. Et puis on a filmé sa rue, on a filmé sa maison, et donc les voisins, etc. Donc tout le monde, on a repéré très rapidement que c'était Jacqueline qui était là, quoi. Voilà. Et donc effectivement, c'était un problème aussi. Mais donc, je continue peut-être mon processus. Jacqueline décide de me faire plus ou moins confiance, en tout cas dans un premier temps. Elle me dit, ce serait bien qu'on se rencontre. Moi, j'ai dit, oui, on va se rencontrer. Alors, j'apprends quelque chose à ce moment-là. C'est qu'elle n'habite pas dans la rue de Dizon à Verviers. Elle habite du côté, dans la région liégeoise plutôt. Et elle me dit, on va se rencontrer à mi-chemin entre chez toi et chez moi. Et donc, on réfléchit un petit peu, on tombe sur Namur. J'ai quelques petits réseaux à Namur qui me permettent de trouver un bureau. Et je dis à Jacqueline, on se retrouve là et on se donne rendez-vous. Je ne sais plus quel jour maintenant, mais on se donne rendez-vous pour une rencontre. Et alors là, je la rencontre et on parle pendant deux heures quart, avec un petit peu d'inquiétude au début. Et puis elle sent qu'elle peut me faire confiance, je crois. Et donc, elle me raconte un petit peu son histoire pendant deux heures. Et c'est là que j'apprends effectivement que c'est une dame qui a travaillé beaucoup, sérieusement. C'est pas une glandeuse du tout. Alors, parfois, elle se retrouve au chômage, etc. Mais de manière relativement courte, elle a toujours été disponible sur le marché de l'emploi. Elle va travailler parfois 200 km de chez elle, hein, donc en train, pas facile nécessairement. Donc, c'est pas du tout l'image que De Boursu donne des gens qu'il a rencontrés sur ce reportage.
Mais moi, je trouve que c'est énorme, ça, quoi. Juste ça, c'est énorme de faire passer ses propres idées à lui via une tierce personne, alors que ce n'est pas la réalité, quoi. Moi, je trouve ça scandaleux, quoi. Ça me révolte.
Mais oui. Alors voilà, c'est un discours qu'on entend. Quelle est l'impartialité de Boursu? On parle de ses liens avec un parti du gouvernement. Hein, donc, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Il y a de la famille, mais on a le droit d'avoir une nièce qui est députée et en même temps avoir son indépendance. Donc, je ne veux pas insinuer des choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être, mais en tout cas, ça se passe d'une certaine manière. Et ce qui se passe par la suite, quand le président de la commission des affaires sociales du CARM, MR, veut inviter De Boursu pour témoigner, ça signifie quand même qu'il y a des choses bizarres qui se passent entre eux, quoi. On a plutôt l'impression qu'ils s'entendent quand même plutôt bien et qu'on dise que de Boursu ait voulu alimenter la manière de penser du MR au travers de son reportage. En tout cas, quand on voit le reportage, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Est-ce que c'est volontaire ou pas ? Je ne vais pas m'engager sur ce chemin-là, mais bon, j'ai une petite idée, peut-être, quand même. Quoi.
Bah, si, on le sait bien, Enfin, il ne faut pas avoir peur de... Attends, on ne met pas n'importe qui à cet endroit-là non plus, quoi.
Je crois, oui, bien sûr. Mais voilà, c'est... J'ai une petite prudence par rapport à ça, mais voyant un petit peu le travail habituel de Boursu, c'est vrai qu'il est quand même plutôt proche d'une certaine propagande du MR, je pense. Oui, c'est ça.
Et donc l'idée, c'est d'appuyer cette idée que sans boulot, tous fraudeurs, il n'y a plus d'argent. Ben, c'est ça qu'il dit à la fin. Hein. Donc c'est très bien que ça existe, les allocations de chômage, la mutuelle et tout ça, mais il va falloir se serrer la ceinture là et mettre de l'ordre dans tout ça, quoi. C'est ça qu'il dit, hein.
C'est ça qu'il dit, oui. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, hein, il n'y a plus d'argent. Ouais, ça se discute, hein. On ne peut pas dire qu'on soit particulièrement un pays pauvre. Alors peut-être qu'il y a des difficultés financières. Et effectivement, je pense qu'il faut peut-être, s'il y a des difficultés financières, se dire qu'on va aller gratter là où on peut gratter. Ceci dit, quand on voit le public, et notamment le public interviewé dans l'émission, mais le public qu'on rencontre de manière générale quand on est assistant sociaux, et donc mes étudiants en stage, ils voient ce public-là au quotidien, ils sont dans une telle situation que ça en devient dégueulasse, effectivement, que moi, on me retire un peu de mon pognon. Alors je râle, évidemment, parce que j'ai travaillé toute ma vie pour le gagner, etc. Mais je pourrais encore partir en vacances, je pourrais payer mon loyer, je pourrais bouffer, j'irai peut-être une fois en moins par mois au resto. Rien de dramatique. Mais eux, qui sont déjà dans le 36e dessous parfois, hein, et à qui on retire, ça devient dramatique. Et ça, je trouve que voilà, ça nous éloigne de l'émission, mais ça ne nous éloigne pas du sujet, je trouve. Je trouve que c'est un choix politique qui est mené et qui est d'une violence terrible pour une partie de la population. Alors, je ne sais pas combien, mais à mon avis, on est autour du million de Belges qui vont subir les conséquences des décisions de ce gouvernement et subir les conséquences de manière dramatique, c'est pas seulement comme beaucoup d'autres qui se plaignent avec raison, qui vont manifester avec raison, mais qui pourront continuer à vivre malgré tout. Là, ceux qui vivent la précarité, dans la rue de Dizon notamment, où il a été faire son émission, ils vivent une vraie précarité. Et donc, manger tous les jours jusqu'à la fin du mois, c'est pas évident. Donner à manger à son gosse tous les jours pour qu'il ait à manger quand il va à l'école, c'est pas évident. Et on retire encore. Là, je trouve qu'on est dans l'immonde. Moi, c'est clair. Ouais, c'est clair. On est dans l'immonde, oui, tout à fait.
Et tes étudiants, ils ont regardé le documentaire ou t'en as fait quelque chose de collectif dans ta classe ou pas du tout? C'est resté un peu de l'ordre du privé?
Oui, pour moi, c'est deux choses différentes, mais on en a parlé. Une étudiante m'a interpellé. Tiens, vous avez vu l'émission de Boursu? Je dis, ah, ben justement, je suis en train de travailler là-dessus. Je vais rencontrer Jacqueline, etc. Ah, et puis après, vous avez rencontré Jacqueline? Oui, j'ai rencontré Jacqueline. Et alors, ben, j'espère que la carte blanche va sortir. Et puis voilà, donc on ne s'est pas encore parlé.
Oui, tu n'as pas mobilisé toute la classe?
Non, pas encore. On va les croiser cet après-midi. Je vais les croiser cet après-midi. On va peut-être en parler. Bien que j'ai reçu un message de l'étudiante qui m'interpelle. Elle est malade aujourd'hui. Elle ne viendra pas. Pas de chance. Donc, je vais peut-être attendre un peu. Mais globalement, oui, c'est ça. J'ai pas parlé avec les étudiants. Je trouve que c'est des histoires différentes et en même temps connectées. Mes collègues m'en parlent beaucoup dans l'école de la carte blanche.
C'est quand même vachement intéressant de parler de ça. En classe, en plus, c'est accroché au réel, là, maintenant, au présent. Non ?
Certainement, c'est un peu peut-être une pudeur ou une gêne de ma part de me mettre en évidence, parce que effectivement, je suis d'une certaine manière en évidence là-dessus. Hein. Et donc, je suis un peu hésitant toujours, mais mes collègues, parce que c'est vrai que des collègues l'utilisent. Hein. J'ai des collègues qui l'utilisent dans cette école-ci, dans d'autres écoles. Je sais que des collègues vont l'utiliser. Et donc, oui, je devrais l'utiliser aussi. Ben, peut-être que cet après-midi, je passerai le pas. On verra bien si je me décide ou pas. Mais oui, c'est clair que c'est utile pour les étudiants. Alors, c'est utile pour les étudiants parce que je trouve qu'on explique, en tout cas, on montre comment les réalités peuvent être différentes.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? On montre de quelle réalité tu parles?
Les réalités de la précarité telles que qu'on les raconte à la télévision, on peut les raconter de manière différente. En tout cas, c'est ce que je fais, moi, dans la carte blanche. Et puis, autre chose, c'est que l'action que j'ai menée, avec l'aide de Bernadette, de Philippe et puis de Jacqueline après, je trouve qu'elle est quand même relativement engagée et militante et qu'elle propose une espèce de méthodologie de travail pour raconter autre chose que ce qu'on raconte de manière un peu générale dans une société médiatisée, etc. Et donc à ce titre-là, je suis assez fier de moi, je dois le dire, je suis assez fier d'avoir réussi ça, parce que ce n'était pas prévu, qu'il y a un mois, je n'imaginais pas ça du tout, hein, ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment construit, quoi. À un moment, ça m'est tombé sur la gueule et hop, j'ai pris et j'ai fonctionné comme ça. Mais je trouve que ça raconte quelque chose d'une manière de faire citoyenneté, de faire militance de manière relativement simple, sans grand discours grandiloquent. Et ce qui est vachement important pour moi, avec Jacqueline, c'est que je n'ai pas fait ça tout seul, c'est que j'ai fait ça avec Jacqueline. Et pour moi, ça, c'est une fierté aussi. On a fait ça à deux. Et Jacqueline le ressent aujourd'hui, en tout cas. Je lui ai demandé, est-ce que tu es d'accord que je me fasse interviewer par Radio Campus ? Et elle a hésité d'abord en disant, ouais, mais attends, tu vas me trahir, tu vas dire des choses que tu ne peux pas dire, etc. Je vais être attentif à ça. Hein, donc. Et donc, voilà, je suis attentif à ce que je dis. Mais voilà, elle a quand même dit beaucoup. Et on se fait confiance. Mais oui, elle était un peu hésitante. Mais je trouve que je ne peux pas, par rapport à mon engagement face à elle, je ne peux pas aller au-delà de ce qu'elle m'a permis de faire, quoi. C'est vraiment l'engagement que j'ai moral vis-à-vis d'elle et qui me permettra de montrer la différence fondamentale entre moi et de Borsu aussi. C'est de Borsu. Il a foncé, il a fait un truc, je ne sais pas comment il l'a fait, en combien de temps il l'a fait, mais ça a dû aller relativement vite. Hein, hop, 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 hop,
hein. Il disait que tout à la fin, ça lui a pris 2 mois.
Je ne sais pas, il a fait beaucoup d'autres choses aussi, parce que je trouve que c'est une succession de témoignages, un petit montage rapide. Bon, apparemment, il y a l'IA qui est intervenue, etc. Ouais. Mais voilà, moi, ça m'a pris 1 mois, je trouve que Jacqueline est respectée, elle reste digne. Et que c'est une belle personne. Moi, c'est vraiment la conviction que j'ai après avoir terminé le travail avec elle, c'est que c'est une belle personne qui ne méritait pas du tout ce qu'on lui a foutu dans la gueule, quoi, oui.
Oui, tu as bêtement, excuse-moi, pris le temps avec Jacqueline, quoi. Et tu ne l'as pas... tu n'as rien voulu d'elle spécialement, si ce n'est de contextualiser, de prendre le temps de raconter son histoire, pas simplement 2 phrases, quoi. Oui. C'est ça la grosse différence entre un de Borsu et toi. C'est fondamentalement différent, quoi.
Oui, oui.
Mais en gros, c'est simple. Non ? Vas-y, hein, tu oui, peux dire...
Oui, oui. Non, c'est simple, c'est simple. Alors, ça prend un peu de temps, mais c'est la base. Pour moi, c'est la base. Enfin, c'est la base du journalisme aussi, hein, donc c'est là que j'en veux aussi à de Borsu. Hein. C'est que la base du journalisme, c'est quand même de donner de l'information. Et là, qu'est-ce qu'il a ? Il n'a pas donné d'information. Alors, il a donné... Ou alors une information très, 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 très parcellaire qui devient de la fausse information à partir du moment où c'est tellement parcellaire, ce n'est plus de l'information. Et donc, je pense qu'effectivement, ce qu'il fait, ce n'est plus du journalisme. Je ne prétends pas être journaliste. Je pense que j'ai fait du meilleur journalisme que lui, de manière plus déontologique que lui sur ce coup-là. Voilà, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, je suis assez fier, effectivement. Je revendique ma fierté par rapport à ça, parce que j'ai voulu être propre et que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai réussi à l'être par rapport à Jacqueline et par rapport à la mission que je m'étais donnée à ce moment-là, d'essayer d'être cohérent par rapport à mes valeurs par ailleurs, etc. Je trouve que dans mon travail avec les étudiants, comme dans mon travail quand je suis avec d'autres associations, etc., c'est quand même d'être toujours au plus proche de ce que me racontent les gens et de ne pas vouloir les trahir. Ça, c'est vraiment un enjeu fondamental que j'ai et que j'essaie de transmettre pédagogiquement aux étudiants que j'ai. Je travaille avec des étudiants qui sont, je le disais tout à l'heure, dans des CPAS, dans l'aide à la jeunesse, etc. Ma mission, c'est qu'ils respectent les gens avec lesquels ils travaillent, même si c'est compliqué, même dans un CPS. On sait bien que c'est très compliqué de travailler en CPS. Mais si les travailleurs sociaux que je forme respectent les gens, alors ça ne solutionne pas tout, hein, parce que c'est pas parce qu'on les respecte qu'on leur trouve un logement, qu'on leur donne assez d'argent que pour. Mais au moins, il y a quelque chose de fondamental. Et moi, c'est mon métier de prof. C'est qu'au moins ils sont dans le respect des gens. Et après, si on peut leur donner la parole en plus, c'est ce que j'ai réussi avec Jacqueline, c'est quelque chose en plus. Si on peut faire collectif, ensemble, pour porter des témoignages de ce qui se passe dans leur vie, c'est important aussi. Et par ailleurs, si on peut faire un moment encore plus, aider ces gens à avoir un engagement plus militant en expliquant, moi je n'ai pas de logement, ou j'ai un logement insalubre, ou un petit logement trop petit par rapport à ce que j'ai besoin, je vis avec d'autres personnes, enfin je connais d'autres personnes qui vivent les mêmes réalités, ensemble on va aller expliquer les choses dans un journal, dans un parti politique, etc. Je trouve que c'est important, ça fait partie du travail social aussi fondamentalement pour moi.
Mais il y a 31 minutes là, allez encore un petit 10-15 quoi, mais ça va vite hein. Mais tiens, tu parles du travail social, mais le travail social... Moi, je suis une travailleuse sociale aussi. Hein. Je suis. On parle toujours, tu sais, avec la crise, tout ce qui, toutes les politiques là. Hein, il y a plus d'argent dans l'éducation, dans les hôpitaux. Je sais plus quoi d'autre encore. La santé. Enfin. Mais ça c'est sûr, il y a pas assez d'argent. Mais je suis aussi étonnée de voir qu'on parle si peu. Alors là, ça vient directement en lien avec ce que tu viens de dire. Les travailleurs sociaux, c'est quand même aussi des glandus, quoi. Non, je veux dire par là que, oui, sûrement à l'école, on vous apprend des principes, des valeurs, et puis une fois sur le terrain, la personne handicapée qui est désagréable, parce que c'est pas toujours facile d'être handicapé, le travailleur social, lui, il rentre en guet. Enfin, tu vois, c'est vraiment un travail qui est pas facile, ça c'est sûr, le travail social, mais je trouve qu'on entend peu parler politiquement d'un groupe d'acteurs sociaux comme ça qui veulent vraiment changer les choses. Et enfin, voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi. Je trouve qu'on parle souvent de l'argent. Oui, il y a pas assez d'argent, on est mal payé, on est mal considéré. Mais je trouve qu'il y a pas une défense aussi de l'éthique, de la politique. Enfin, tu sais, des vrais travailleurs sociaux politisés, quoi, tu vois.
Mais alors,
t'es mal barre là.
Hein. Pas du tout. Je me sens très à l'aise pour en parler. Je rêvais de parler de ça justement. Non, mais c'est vrai que alors la dimension politique du travail social, c'est vrai que quand il y a une grève, les travailleurs sociaux sont pas les plus présents dans les manifs, par exemple.
Ça, c'est normal. Ils sont occupés. Ils peuvent pas lâcher l'affaire.
Et en même temps, on leur dit souvent, lâchez l'affaire pendant 5 jours. Vous allez voir comment le pays va aller mal et on va devoir trouver des solutions parce qu'on va devoir vous écouter davantage. Et c'est vrai aussi. Mais voilà. Donc on sait bien que pour les travailleurs sociaux, c'est compliqué de se mettre en grève et d'aller manifester. Par contre, il existe quand même, et je te remercie donc de la question, je fais partie de ce qu'on appelle le comité de vigilance en travail social. Le comité de vigilance en travail social regroupe plus de 1 000-1 500 travailleurs sociaux qui viennent de manière épisodique à nos rassemblements. Mais qui
Belgique
mais, Fédération Wallonie-Bruxelles, oui. Voilà. Et on travaille justement sur les questions éthiques qui se posent. On pose des questions, on pose des diagnostics politiques également. On interpelle politiquement, on fait des cartes blanches, autres que celles de Jacqueline. J'écris d'autres cartes blanches que celles sur Jacqueline. J'en écris d'autres également. Et on est actif pour soutenir une réflexion collective sur ce qu'est le travail social et sur la manière de le développer. On est en train de travailler, par exemple, pour l'instant, sur un numéro de la Revue Nouvelle, qui est une revue sociologie politique. On est en train de travailler sur un numéro sur le travail social. Et y a une belle mobilisation collective d'une vingtaine, trentaine de personnes. Hein. On ne sait pas faire travailler avec beaucoup de monde sur une revue, mais qui va porter un discours, en tout cas, différent. Je sais dire, le travail social peut être différent. Par ailleurs, pour une dimension plus politique peut-être, je suis invité pour parler à Liège, au mois de janvier, à un collectif qui s'appelle Travail social en lutte. Donc, qui lutte. Et de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler du travail social clandestin. C'est quoi le travail social clandestin ? C'est un truc qui me porte beaucoup, moi aussi, dans mes réflexions. Le travail social clandestin, c'est les travailleurs sociaux qui sont obligés de travailler à côté de leur cadre institutionnel, obligé de faire autre chose, de dire si je respecte le cadre institutionnel, je ne sais pas travailler avec les gens, je ne sais pas les respecter, je ne sais pas respecter leur dignité, et donc je suis obligé de passer à côté.
Exemple pour qu'on comprenne, parce que sinon c'est un peu flou.
Plein d'exemples, mais je parlais tout à l'heure de l'assistance sociale de CPAS qui ne va pas expliquer que telle personne travaille un peu en noir pour arrondir ses fins de mois, un travailleur social qui. C'est des exemples que je connais, hein, qui ne sont pas nécessairement courants, mais qui existent, hein, qui fait un faux en écriture, parfois, pour que la personne ait droit... C'est pas tout à fait un faux, hein. La personne on a déjà rempli ce document 3 fois, 4 fois, 5 fois, et à la 6e fois, elle n'est pas là pour signer, et on sait bien qu'elle a besoin de soins de santé importants, ben on signe à sa place, comme ça, elle aura droit à son soin de santé, et ne devra pas attendre un mois en plus avec une rage de dents insupportable. C'est des choses qui peuvent se passer. Ça, c'était il y a quelques années, mais un travailleur social qui donne... qui donne une de ses vignettes mutuelles personnelles pour qu'un malade puisse être soigné. Et un médecin fait un travail social clandestin de son côté. C'est des éléments qu'on a croisés. Ouais. Et donc, c'est des choses qu'on connaît et qui existent dans le travail social. C'est une forme de militance un peu souterraine, mais qui est aussi une forme de militance. Et donc, notre volonté, à nous, au comité de vigilance, comme un travail social en lutte, c'est de collectiviser ça et de mettre ça davantage en évidence, évidemment. Hein.
Pourquoi mettre ça en évidence ?
Mais pour montrer que le vrai travail social n'est pas possible dans les cadres qu'on nous impose de plus en plus, ça c'est une première chose, et pour dire que les gens qui vivent dans la précarité, si on respecte les cadres qu'on nous impose, eh bien, ils continuent à vivre dans la précarité, et que la volonté des travailleurs sociaux, c'est que ce n'est pas que les gens vivent dans la précarité, c'est qu'ils puissent en sortir. C'est pas des miracles le travail social clandestin, mais quand même, ça ouvre des portes potentiellement... Ben, c'est vraiment l'exemple que quand j'en parle, c'est toujours très énervant, mais le fou en écriture pour quelqu'un qui a une rage de dents, enfin, imagine une rage de dents, hein, dans quel état tu es, et on te dit, ton papier n'est pas en ordre, tu vas attendre encore un mois pour y aller, quoi. Il se fout en l'air, le gars, il va se jeter en dessous du train tellement il a mal, quoi. Et donc, le travail social, il fait tout connement, et il signe à la place du gars, il téléphone à l'assistante sociale de l'hôpital qui connaît évidemment, qui sait bien, et qui va laisser passer aussi, hein, mais voilà, ça c'est du travail social dans les marges ou hors des marges, et ça, c'est fondamental. Et puis il y a tout le travail social, parce qu'il n'y a pas que le travail social clandestin, et on n'est pas fiers de faire du travail social clandestin, je pense, on préférerait faire un travail social qui soit dans les cadres et qui permette aux gens de grandir et de s'émanciper. Mais il y a parfois travail dans les interstices, comme j'ai dit aussi. Donc, on lit la circulaire, la décision politique, et on se dit « Ah oui, ils avaient dit ça, mais il reste un petit espace qui me permettra peut-être de travailler encore un petit peu différemment en restant dans les cadres. » Et puis tous les discours politiques, évidemment, qui sont fondamentaux. Et je plaide pour que les travailleurs sociaux soient davantage dans le plaidoyer, expliquer « Voilà ce qu'on vit, et voilà ce que vous devriez mettre en place en tant que politique. » Je pense qu'il y a vraiment des discours de travailleurs sociaux qui pourraient être vraiment intéressants à ce niveau-là.
Oui, mais il n'y a pas de volonté de les entendre ou de changer la donne, quoi, clairement. Là, on est occupé avec les nouvelles politiques, dis-moi si je me trompe, à saper tout ça. Oui. Mais l'idée de départ, c'était de discuter aussi sur ces travailleurs sociaux qui sont, selon moi, peu engagés. Après, ça me fait du bien que tu dises que j'entende ça, parce que je sais qu'il y a un documentaire que je ne sais plus comment il s'appelle, ce réalisateur belge-là... que j'avais vu, où il montrait là vraiment, c'est un vrai documentaire, où il montrait ces travailleurs sociaux qui sont dans les marches. Comment tu dis ?
Au suivant de Pierre Schoenbrot ?
Oui, c'est ça. J'avais trouvé ça formidable parce qu'on en parle tellement peu de ces travailleurs sociaux qui sont dans les marches, sûrement. Moi, j'ai plus l'habitude de travailleurs sociaux qui attendent leur salaire fin du mois et qui sont planqués. Et monsieur, madame, vous n'allez pas me faire chier avec vos... Vous voyez ?
Ça arrive, hein ? Ça arrive,
effectivement. Je suis plus habitué à ça,
oui.
Moi.
Ben oui. Moi, je reste optimiste par rapport à ça.
Mais toi, tu travailles avec la jeunesse, déjà.
Je travaille beaucoup avec les jeunes, oui, effectivement. Mais non, mais les maîtres de stage que je rencontre aussi, hein, et je trouve qu'il y a encore une mobilisation, en tout cas une volonté de bien travailler. Alors, peut-être pas d'être dans la revendication, d'être dans la portée d'un message politique, ça, c'est pas systématique. Mais j'en croise quand même régulièrement. Hein. On a quand même régulièrement des rencontres avec des gens qui sont engagés, mobilisés, mais pas assez collectivement. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Il manque une mobilisation collective. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire au comité de vigilance ou à Travail Social en Lutte, c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est de porter davantage la parole collective et de dire aux travailleurs sociaux, tu n'es pas tout seul, on est nombreux à penser comme toi. Rejoins-nous pour qu'on puisse penser ensemble et travailler ensemble à ce que ça se passe différemment. Et ça, je crois quand même c'est entendu, mais quand on a travaillé 40, 45 heures sur sa semaine, qu'on a des enfants, qu'on a sa femme ou son mari et qu'on veut rentrer... on rentre et à un moment, on se laisse un peu aller. On n'est plus dans la militance quotidienne, effectivement.
Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dépolitisé et pas simplement que dans le travail social. C'est toutes les sphères de la société. C'est ça avec tout ce qui se passe, les nouvelles politiques, ça réveille aussi, ça secoue le cocotier pour se dire, allez, il faut se remettre un peu à la niaque, là, parce que sinon, ça va mal finir, quoi.
Moi, je pense qu'on doit assister à une repolitisation. Mais évidemment, quand on parle de repolitisation, on pense Parti Socialiste, on pense MR, on pense... Non, c'est pas ça, la politique. La politique, c'est de dire, j'ai des idées, j'ai des valeurs, et je vais me défendre, je vais me battre avec ça. Et je pense que les travailleurs sociaux sont pas mal placés par rapport à ça. En termes de formation, ils sont bien outillés, je trouve. Et dans leur quotidien, ils ont pas mal de trucs par rapport à ça. Mais c'est pas que les travailleurs sociaux, c'est les citoyens de manière générale. Et donc, dans la revue Nouvelle, on travaille quand même à une remobilisation, on réfléchit à une remobilisation. Et c'est Renaud Mas qui est un sociologue...
Comment t'as dit ?
Renaud Mas.
Ah, ben oui.
Voilà.
Oui.
Qui intervient dans le film, d'ailleurs, au suivant, qui dit que l'engagement sera festif ou ne sera pas. Et je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'on devra penser l'engagement dans le futur de manière joyeuse. Parce que si on réfléchit de manière joyeuse, peut-être qu'alors on va mobiliser d'autres gens. À partir du moment où on dit, il n'y a rien qui va, c'est pénible, on y va, on doit se mobiliser. si on fait ça de manière plus festive et de manière plus joyeuse, avec de la musique, avec la culture, hein, la culture qui est vachement aussi attaquée, ben, probablement que... Enfin, moi, je crois que très fort entre au lien entre la culture et le social, pour porter des vraies revendications, je pense que ça fait partie de ce qu'on va devoir faire dans les mois et les années à venir, pour porter des valeurs importantes qui restent quand même, même si elles sont de plus en plus difficilement mises en valeur, mais les valeurs démocratiques fondamentales, quoi, oui.
Marc. Oui. Marc
Chambaud.
Chambaud.
Voilà.
Chambaud, c'est rigolo comme nom, non?
Non.
Chambaud, ça veut dire quoi?
Ah, je ne sais pas.
Quoi, l'histoire de Chambaud?
Je ne connais pas exactement.
Sérieux?
Oui, non, je ne connais pas. Okay. Je sais qu'il y a du vin à Bordeaux, du vin de Chambaud, mais je ne connais pas l'origine exacte, non.
D'accord. Ben, écoute, on est à 42 minutes. Est-ce que tu vois encore quelque chose à dire de fondamental que tu n'as pas dit? Je peux lui laisser un petit peu de temps, que c'est important là maintenant, que les gens vont entendre. Tu te dis, tiens, mais j'en profite pour dire ça, moi. Je n'ai pas l'occasion de le dire souvent, mais c'est important que vous sachiez. Non?
J'ai des choses à dire. Bon, mais en tout cas, ce que je trouve de manière un peu dramatique aujourd'hui, c'est que certaines parties de la population sont quand même très attaquées aujourd'hui par les mesures gouvernementales, notamment. Et alors, je pense de manière un peu générale aux personnes précaires, mais on en a déjà beaucoup parlé. Je pense aux femmes, quand même, qui vont pas mal subir. Je pense aux jeunes aussi. Moi, j'ai été président de la Fédération des maisons de jeunes pendant quelques années auparavant. Et je me suis beaucoup intéressé aux jeunes et à la manière dont ils étaient traités. Alors, ce n'est pas qu'ils soient maltraités, mais je pense qu'on n'en tient pas suffisamment compte. On parle beaucoup de problématiques de santé mentale chez les jeunes depuis le Covid, etc. Et ce qu'on nous propose aujourd'hui en termes de mesures pour l'aide à la jeunesse ou pour la jeunesse, ça ne va pas les aider, quoi. Donc moi, je suis assez dramatiquement... je suis très inquiet par rapport à tout ça. Et donc, je pense que oui, si je dois laisser un message pour finaliser nos 50 minutes, là, qui seront 45, 46...
Peut-être 50, même passé, hein, des fois, on ne maîtrise pas tout.
D'accord. Bien, je pense en tout cas que la population jeune est d'enfants, hein, les enfants, on commence à zéro, jusqu'à 26, 30 ans même parfois. Hein. Mais je pense qu'il y a vraiment une vraie, vraie difficulté et qu'on n'en tient pas suffisamment compte. Alors, c'est hyper violent, un gosse qui ne va pas bien. Hein. C'est violent pour ses parents, c'est violent pour lui-même, c'est violent pour ses amis. Et on n'en tient pas compte. Alors que je suis aussi convaincu qu'il ne faut pas des outils extraordinaires. Alors, il faut des psys parfois, il faut des psychiatres, il faut des médicaments, il faut plein de choses comme ça. La plupart du temps, il faut simplement l'ouverture. Et donc, président de la Fédération des maisons de jeunes pendant des années, je trouve que les maisons de jeunes, les mouvements de jeunesse, les clubs sportifs, les groupes de théâtre, etc., sont des lieux où les jeunes peuvent trouver de quoi exprimer des choses. Et je trouve que c'est des choses qu'on doit vraiment développer. Moi, en tout cas, c'est un des enjeux que j'ai porté toute ma vie et que je continue à avoir envie de porter. C'est de laisser des espaces pour que les jeunes puissent trouver ailleurs qu'à l'école. L'école, c'est quand même une structure. Ouais, je suis prof, hein, mais je sais bien qu'en tant que prof, on est dans une structure quand même très, très lourde, très cadrée, etc. Je pense que les jeunes ont besoin de pouvoir ouvrir leur esprit, que la culture leur permet ça, et notamment les maisons de jeunes et les mouvements de jeunesse et les organisations de jeunesse de manière un peu plus générale pour ne pas être centré sur les maisons de jeunes, même si je trouve qu'en maisons de jeunes, cette dimension culture est importante et que les maisons de jeunes sont des lieux où les jeunes peuvent exprimer vraiment beaucoup de choses. Et je trouve ça vraiment important et intéressant et nécessaire pour eux, quoi, pour leur futur.
Mais quoi, ce que tu veux dire, c'est que avec le gouvernement là, il coupe là-dedans aussi, oui. Ça attaque de ce côté-là.
Oui, tout à fait. Les organisations de jeunesse et les maisons de jeunes se sentent en tout cas attaquées dans leurs moyens financiers. Alors les moyens financiers d'une maison de jeunes, qu'est-ce que c'est? C'est des moyens qui arrivent au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a des APE qui viennent de la région Wallonne. Et puis la commune qui aide un petit peu. Les communes, elles ne vont plus pouvoir aider. Hein, donc certains locaux qui sont chauffés par la commune va dire on n'est plus capable de chauffer. Ça va arriver. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans des locaux qu'on ne sera plus capable de chauffer? Les APE, on sait bien que c'est très compliqué. Donc d'être certains travailleurs qui sont détachés en maison de jeunes ou dans des organisations de jeunesse, on ne saura plus les payer non plus. Et donc on sent quand même qu'il y a une grosse vague en disant tout le monde doit faire des efforts. Mais les maisons de jeunes, notamment, c'est des organisations qui vivent avec peu de moyens depuis toujours, hein, ouais. Peu de moyens, et on leur
elles sont touchées aussi, quoi.
Oui, complètement. Et la sanction en termes de pratiques professionnelles que les animateurs de maisons de jeunes peuvent mettre en place, ça va être quand même fort, fort différent dans les années qui vont venir, parce que ce sera plus difficile. Il manquera d'animateurs, et les animateurs sont fondamentaux dans les maisons de jeunes, évidemment.
C'est ça que tu avais envie de souligner, toi ?
Ouais. Tu m'ouvres la porte à autre chose, hein. Moi, j'étais venu pour parler.
Très bien.
On devait parler de Jacqueline. On a parlé de Jacqueline et c'est très bien. On a parlé du reportage et c'est très bien. Tu m'as permis de parler de travail social et de militance dans le travail social. J'ai trouvé ça fondamental. Un élément qui restait peut-être à aborder, ben, pour moi, parce que ça reste un axe, comme je le disais tout à l'heure, assez fondamental de ma vie, c'est de parler des jeunes. Tu m'as permis d'en parler. Ben, merci.
Et la dernière question, on va dire, attention, moi, avant la dernière question, dans le film, il y avait aussi Laetitia, Sylvie et ses armoires qu'elle nettoie 3 fois par jour, hallucinant, non ? Elle n'a pas de boulot, elle ne sait pas quoi. Enfin, je veux dire, si les gens qui regardent ça se disent que ce sont des profiteurs tranquillous qui se l'adorent au soleil, mais pas du tout, quoi. C'est des gens qui sont dans la difficulté, qui doivent trouver un sens à la vie.
Tu as utilisé le bon mot, hein. C'est le sens à la vie. C'est vrai que, alors, je pense qu'on va trouver du pognon pour ces gens-là. Il faut qu'ils aient une maison décente, qu'ils aient de quoi se nourrir, etc. Mais ce qui est important, c'est aussi le sens à la vie, hein. On peut vivre avec peu de moyens, mais je pense que la réalité, hélas, c'est qu'on va devoir vivre avec moins de moyens. Mais si on est heureux dans ce qu'on fait, et ça, je reviens en maison de jeunes, hein, mais les maisons de jeunes, les maisons de quartier, etc., si on peut aller les jeunes qui vont en maison de jeunes et qui sortent en étant « Ouais, chouette, j'ai regardé un film avec les copains qui m'a plu, ou j'ai participé à la pièce de théâtre, ou j'ai joué de la guitare, etc. Ben, » ils ont un sens à leur vie, qu'ils ne trouvent peut-être pas à l'école, hein, parfois ils ne trouvent pas à l'école. Ben, ces dames-là, dont on parle dans l'émission, peut-être que oui, il ne faut pas grand-chose pour qu'elles ne revendiquent pas d'avoir besoin de moyens supplémentaires tellement importants. Mais si elle peut effectivement nettoyer ses armoires une fois par semaine pour entretenir l'hygiène simplement, et le reste du temps trouver des activités qui lui conviennent, même bénévoles, enfin de culturelles, etc., sans nécessairement travailler, parce que là, on n'en parle pas, on n'en a pas parlé, mais les chiffres sont clairs, hein, il n'y a pas de travail pour tout le monde, hein, et pour ces gens-là peut-être encore moins, parce qu'ils sont peu qualifiés. Alors peu qualifiés, ça ne veut pas dire pas compétents, parce que c'est aussi quelque chose qui est mal utilisé dans les discours. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences, mais en tout cas, par rapport au boulot qu'on propose, les qualifications ne correspondent pas. Alors, on peut avoir des formations, etc. Mais depuis des années, c'est des gens qu'on forme. On les oblige à se former, le CPS les oblige à se former, l'ONEM leur dit, si vous voulez garder vos allocations, vous devez vous former. Et ils se forment à des boulots où il n'y a pas de bouille, enfin, où il n'y a pas d'emploi par la suite. Quoi. Et donc, on sait bien qu'il y a une inadéquation entre emploi et formation, et que le gouvernement actuel ne cherche pas de solution. Alors que, par contre, bon, c'est encore un nouveau sujet, mais les associations qui travaillent à l'insertion socio-professionnelle, elles sont aussi impactées par les mesures, alors qu'elles savent dire... telle personne, je vais pouvoir l'accompagner et la former à tel ou tel boulot, et peut-être qu'elle va trouver du boulot. Mais ça, on sac aussi, et on imagine des structures ONEM, etc., qui sont des grosses machines. Je ne dis pas que les gens travaillent tous mal à l'ONEM, hein, pas du tout, mais c'est des grosses machines qui ne vont pas pouvoir tenir compte des situations individuelles pour permettre aux gens d'arriver à un boulot. Et on sac là-dedans de manière insupportable également.
Puis les gens se forment, ne trouvent pas de boulot, se démotivent, et c'est hyper normal, quoi. Enfin, voilà...
Personnellement, moi, j'ai toujours parlé du burn-out de la précarité. Alors, il y a le burn-out de ceux qui travaillent, et puis il y a le burn-out de ceux de la précarité. Et c'est quoi, le burn-out de la précarité ? C'est qu'on essaye, tous les jours, on essaye, et à un moment, on n'essaye plus, on est épuisé. Et ils sont fatigués d'être pauvres, hein. C'est vraiment quelque chose de dramatique. Hein. Parce que, enfin, j'aime toujours raconter cette histoire aussi. Peut-être que ce sera l'histoire... Pour conclure, j'avais fait une recherche il y a quelques années sur l'aide à la jeunesse et la précarité. Et un assistant social de l'aide à la jeunesse vient voir une maison dans une famille pour voir si l'enfant qui est placé peut rentrer le week-end. Et qu'est-ce qui se passe ? Il fait froid dans cette maison. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les gens, le papa, la maman ? Ben, ils cherchent chez les voisins un chauffage pour chauffer la maison. Et donc, quand l'assistant social arrive, il fait bon. Et donc, chouette. Et puis quand, quand l'assistant social s'en va, ben on va rendre le chauffage. Et quand l'enfant arrive, ben il fait froid, évidemment. Mais c'est un combat quotidien de convaincre qu'on est capable d'élever son enfant, être capable d'élever son enfant. À un moment, il doit faire bon dans la maison. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Mais ils se battent pour essayer de convaincre toute leur vie qu'ils font de leur mieux. Et dans des trucs faux, des conneries, parce que c'est, enfin, il ne fera pas chaud pour le pauvre week-end, le gosse, il aura froid dans sa chambre. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est convaincre. Mais c'est pas la réalité de la vie des gens, quoi. La réalité des gens, ce serait bien qu'ils puissent chauffer de manière régulière.
Ce soit pas une question, ça devrait pas être une. Je trouve. Après, toi, tu donnes un exemple énorme. Mais bon, on n'a plus le temps de développer. Mais je veux dire. Manger, avoir un toit et avoir chaud, ce serait, on devrait plus se préoccuper de ça, c'est des questions fondamentales. Tu vois. On devrait plus se soucier de ça pour les gens qui savent pas y avoir accès, quoi. Enfin voilà.
Effectivement. Oui, mais j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est vraiment la base. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que cette base-là, on la rabote. Hein. Des institutrices, des directrices d'école disent les enfants dans ma classe, ils viennent et n'ont pas à manger. Dans les maisons de jeunes aussi. Hein. Avant, on ne s'occupait pas de ça. Comme je disais, on fait du théâtre. Maintenant, on sait bien qu'on achète du pain parce qu'il y a des jeunes qui vont bouffer du pain en arrivant à la maison de jeunes parce qu'ils ont, ils ont besoin de manger quelque chose avant de pouvoir faire l'activité. Quoi. C'est des choses qu'on ne rencontrait pas avant et qu'on rencontre aujourd'hui, effectivement.
Bon, ben Marc Chauveau.
Chambeau.
Ah, oh, mais c'est pas possible. Hein. Chambeau, ouais. Merci.
Merci aussi, merci.